السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد. Donc on reprend à partir d'aujourd'hui là où on s'était arrêté. Et on s'était arrêté à la grande bataille de Uhud. Et on s'est arrêté exactement à l'endroit où, ou plutôt au moment où la bataille elle a basculé. La bataille elle a commencé par une victoire pour les musulmans. D'abord les duels. Ils ont gagné 11 duels. L'étendard des idolâtres est resté par terre. Et ensuite, ça a commencé à être la débandade chez les idolâtres, à un tel point que même les femmes qui étaient venues galvaniser, inciter avec les poèmes et leurs chants, elles se sont enfuies sur la montagne. Et il y a même certains compagnons qui ont commencé à prendre le butin pendant que d'autres pour chasser le restant de l'armée. Et donc, il y a une confusion, hein, ce que les historiens ils vont appeler l'irtibak. Il va y avoir une confusion dans l'armée chez les musulmans. Une série d'événements qui vont augmenter la confusion et qui vont conduire au fait que, alors que ça devait être une victoire, et que c'était une victoire, ça va se transformer en un échec militaire. Le premier événement, c'est que, bon, donc on a dit, les musulmans sont en train de gagner la bataille. On voit même des compagnons qui ont cessé de combattre et qui rentrent dans le camp où il y a les tentes des idolâtres et ils commencent à se servir, à prendre le butin. Et les archers, Ar-Rumat, qui sont sur le mont des archers, à qui le professeur sallam a donné l'ordre de ne pas bouger, ils voient tout ça. Et donc, ils divergent entre eux. Certains disent, la bataille est terminée, rejoignons nos frères. D'autres, et en particulier le chef, diront, non, le professeur sallam nous a donné ordre de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils nous le disent. Et eux, ils ne vont pas le comprendre ainsi. Ils vont dire, oui, jusqu'à... Le professeur Hassem avait dit ça, c'était une façon de dire, il faut pas bouger pendant la bataille. Mais maintenant que la bataille, elle est finie, c'est leur ils l'ont interprété comme ça. Maintenant que la bataille est finie, on peut les rejoindre. Et donc, une quarantaine d'archers vont quitter leur poste. Et une dizaine vont rester. Et là, Khalid ibn al-Walid, qui est à cette époque-là idolâtre, et il voit que la plupart des archers ont quitté le monde des archers, il se dit qu'il y a encore un espoir de sauver la bataille. Mais il doit d'abord se débarrasser de ces 10 archers qui sont restés sur le monde des archers. Et donc il s'occupe d'abord avec sa cavalerie, ils sont quand même 200. Au début, quand ils étaient 50 archers, c'est difficile de monter sur une colline et de se prendre des flèches de 50 archers et de réussir à les décimer. Donc ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Mais là, maintenant qu'il n'y en a qu'une dizaine, ça va être facile pour eux de monter sur la colline, de les abattre, et ensuite de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc ils ont tué la dizaine d'archers qui restaient à cet endroit-là, et ensuite ils se sont occupés de prendre en étau l'armée des musulmans. Ça, c'est le premier événement qui va créer la confusion. Pourquoi ? Parce que il faut vous imaginer, comme on l'avait dit, que au moment où la cavalerie, les 200 cavaliers vont foncer pour attaquer les musulmans par derrière, ils vont en même temps faire leur signal qui avait été prévu, c'est qu'ils doivent crier. Ils doivent faire un cri assourdissant, ils doivent tous crier, hurler, pour que les idolâtres de devant les entendent et comprennent que c'est le moment de prendre en étau. Donc même si là ils étaient en train de fuir les idolâtres de devant, ils entendent le cri, ils comprennent que la cavalerie arrive par derrière et donc ils reviennent. Donc l'armée des musulmans va être prise en étau entre devant les idolâtres qui reviennent, alors que les musulmans étaient en train de gagner. Donc ça crée une confusion, ils ne comprennent pas. Et eux aussi ils entendent les cris, donc ils se retournent. Ils voient la cavalerie arriver, ils ne comprennent pas. Ils regardent sur le mont des archers, plus personne sur le mont des archers. Ils cherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à côté de l'étendard. Non seulement il ne voit plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un autre événement qui crée la confusion, et il ne voit plus non plus l'étendard. Pourquoi ? Parce qu'on avait expliqué que Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, il a été tué au moment où il y a eu cet événement de la descente des cavaliers. Au moment où les archers sont partis. Et donc, tout ça, ce sont les événements qui vont... Et en plus, à ce moment-là, il y a une femme idolâtre qui va profiter de ces événements-là pour prendre l'étendard, et l'étendard des idolâtres et le faire reflotter dans les airs. Donc ça remonte le moral des idolâtres. Cette femme, Amratu bint Alqama. Et donc, tous ces événements, comme on l'a dit, conduisent à cette confusion. Et il y a quelque chose qui va terminer, qui va achever, si on peut s'exprimer ainsi, la confusion des musulmans et de l'armée des musulmans. Et c'est peut-être la pire de toutes celles qui viennent d'être citées. C'est que la grande partie de l'armée des idolâtres et de l'armée des musulmans vont être convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a été tué. Donc pour les idolâtres, ça remonte leur morale. Ils sont venus pour ça, pour éliminer aussi physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont persuadés, à ce moment-là, on va expliquer pourquoi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Et les musulmans aussi, ils vont être persuadés, ils vont entendre cette rumeur, et donc ils vont être persuadés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc il faut se mettre à la place des compagnons, c'est pas facile. D'abord, cet événement de la rumeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, elle est rapportée par tous les spécialistes de la sirah. Tous les savants qui racontent la sirah, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous rapportent cet événement comme étant un événement avéré. Et en effet, on a beaucoup de versions, même si la plupart d'entre elles ont été affaiblies, mais il y en a tellement qu'elles viennent se consolider les unes les autres pour faire au final, en conclusion, une version qui est acceptable. Quant à une dizaine de versions, même si elles sont toutes faibles, qui te disent toutes « il y a eu ça comme rumeur », celle-ci, elle est faible toute seule, celle-là, elle est faible toute seule, elle est faible toute seule, mais quand tu prends les 10 ensemble, tu te dis, il doit y avoir quelque chose, ça doit devenir de quelque part. Et surtout qu'en plus, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, quand il s'agit de l'histoire, les savants sont moins regardants dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire ils disent, il faut préciser, c'est faible, mais on peut l'utiliser et la raconter comme une histoire, comme si c'était vraiment arrivé, parce que ça reste de l'histoire. Par contre, pour tirer les conclusions, ce que les fuqaha, les juristes musulmans, ils appellent hukm shari, une règle dans la vie de tous les jours, là, il nous faut quelque chose de sahih. Il nous faut quelque chose d'authentique. Yani avec les versions faibles, on peut raconter des histoires tout en précisant que c'est faible. Certains savants vont jusqu'à dire, et on peut même utiliser les versions faibles pour ce qu'on appelle fada il a'mal. les bonnes actions, les bonnes mœurs. Si on a un hadith qui nous dit c'est bien de faire ça et on voit que c'est une bonne action, et on sait que le hadith est daif, ben c'est pas grave, on peut prendre en compte ce hadith pour en faire un hukm. Parce que ça nous appelle qu'au bien. Même si la chaîne de transmission elle est faible, ici certains savants ils nous disent ben allez, je prends-le. Par contre, pour émettre une règle, هذا حلال هذا حرام هذا là il faut quelque chose d'authentique. Les savants ont toujours considéré qu'il est très grave de venir et de dire ça c'est haram ou ça c'est halal alors que tu n'as aucune preuve. Et la preuve c'est quoi? La preuve c'est ce qu'ils appellent an-nass sahih sarih, le texte. Il faut que tu aies un texte pour dire que telle chose est haram ou halal. Mais le texte ne suffit pas, puisqu'on vient de voir que le texte il peut être faible. Il faut qu'il soit sahih, authentique, et il faut qu'il soit sarih, explicite. C'est-à-dire quand on le lit, c'est clair. Tu ne peux pas comprendre autre chose que halal. Tu ne peux pas comprendre autre chose que haram. Et il y a plein de textes qui sont sahih, mais ils ne sont pas sahih. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le texte il est authentique, mais ouais, tu peux comprendre de ce texte que c'est interdit, ou tu peux comprendre autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a des divergences entre les savants, parce qu'il y a aussi l'interprétation du texte. Mais nous, pourquoi on parle de tout ça? C'est par rapport à tous ces textes faibles qui nous parlent de cette rumeur, de la mort du professeur Asselin sur le champ de bataille. Cette rumeur, elle ne vient pas de nulle part. Elle va venir de deux choses. La première, c'est qu'un idolâtre va tuer quelqu'un, il tue quelqu'un, et il revient, et il dit, on va expliquer en détail, parce que ça, on le voit dans une version, il vient, il dit, j'ai tué le prophète, j'ai tué leur prophète, j'ai tué Mohammed. Donc déjà, ça vient de ça. Quand on regarde les différentes versions, ça vient de ça. Et ça, on va voir, c'est Ibn Qami'a. On va en parler tout à l'heure. Et on a une autre raison qui fait que cette rumeur, tout le monde va y croire, c'est que on voit, certains ont vu, que ce soit parmi les idolâtres ou parmi les compagnons, au moment où il va y avoir cette confusion, qui vont être pris en étau, certains vont voir que le professeur Asselin s'est pris des coups et ils vont voir du sang. Le professeur Asselin va être gravement blessé et que ces blessures, elles vont être sur le haut du corps, donc des parties vitales. Et ensuite, il y a la confusion, les idolâtres, donc on ne voit plus le professeur Asselin pour ceux qui l'ont vu. Et en plus, ils entendent qu'un idolâtre écrit « Je l'ai tué, c'est bon, je l'ai tué, il est mort. » C'est tout. Quelqu'un qui a vu ça, cette scène. Khlas. Nous, sur le fait que le professeur Asselin a été blessé, on va en parler plus tard. Ça, on le met de côté pour l'instant, pour ne pas tout mélanger les pinceaux. Pour l'instant, on va parler de quoi? De ces différentes versions qui nous laissent entendre que cette rumeur a bien existé sur le champ de bataille et qui a conduit à cette grande confusion. Et aussi, la première cause qui a fait que les gens y ont cru, c'est le fait qu'un idolâtre l'a revendiqué. C'est qui cet idolâtre? C'est Ibn Qami'a. Et on a dans une version, la version de... C'est une version qu'on retrouve dans Tariq Tabari. L'historien Tabari, il rapporte cette version. Lui, il la rapporte, ils disent les savants, Bila Isnad. Sans chaîne de transmission. Il a mis là dans son ouvrage, il a bien vu quelque part, il a bien entendu quelque part, mais il ne le dit pas, il ne le précise pas. Donc, Bila Isnad. Et si on n'a pas d'Isnad, on n'a pas de chaîne de transmission, eh bien, on ne peut pas faire d'enquête pour dire est-ce que c'est sahih ou darif. Une enquête, elle se fait sur quoi? Sur la chaîne de transmission, on ne l'a pas. Et donc, ça, on précise qu'il n'y a pas de Isnad. Mais donc, est-ce qu'on peut juger que c'est authentique? On ne peut pas juger que c'est authentique. On est obligé de dire « hada da'if ». Pourquoi c'est da'if? Parce qu'on n'a pas d'isnad. Par contre, il y a deux savants qui ont fait ensemble un travail il y a quelques années sur Tarikh Tabari. Tarikh Tabari, c'est un livre qui fait plusieurs volumes et qui raconte l'histoire, la vie des prophètes, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie des califes et la vie de tous les califes jusqu'au moment où Tabari a écrit ce livre. Et ces deux savants, l'un d'entre eux s'appelle Barzanji, irakien, et l'autre Khalaf, ils ont tous les deux fait un travail, c'est des spécialistes, c'est des enquêteurs sur les chaînes de transmission, ils ont fait à deux ce travail de reprendre tous ces volumes et de déterminer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et donc ils ont séparé les récits de Tabari entre, ils ont appelé ça Sahih Tabari et Ba'if Tabari. Et donc ils ont compilé toutes les versions qui, selon eux, depuis le début de la vie du professeur Hassan jusqu'à la période où a vécu Tabari, ils ont compilé tout ce qui était authentique pour eux. Et ils ont compilé tout ce qui était Ba'if pour eux. Et on se rend compte que cette version qu'on va citer, ils disent elle est certes rapportée sans chaîne de transmission, mais quand on enquête toutes les autres chaînes de transmission qui parlent de cette rumeur, qui parlent de cet événement, eh bien les autres chaînes de transmission viennent appuyer le fait que celle-ci, elle doit probablement être acceptable, au minimum acceptable. C'est-à-dire, ils n'ont pas sorti le mot sahih, mais acceptable, c'est-à-dire c'est bon, on peut faire comme si c'était sahih, même si on n'ira pas jusqu'à dire que ça a le statut de sahih. Parce que pour avoir le statut de sahih, il y a des conditions dans la science du hadith qu'il faut remplir, que ce hadith ne remplit pas. Mais on peut le considérer comme acceptable. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette version ? Elle nous dit « قاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وكان الذي أصابه ابن قمئة الليفي فرجع إلى قريش وقال لقد قتلت محمدا. » Dans cette version, il nous est dit que le compagnon Mus'ab ibn Umair, je vous rappelle, Mus'ab ibn Umair, c'est lui qui portait l'étendard. Le compagnon Mus'ab ibn Umair va combattre pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas loin de lui. Donc quand il va y avoir cette confusion, et que certains vont reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers lui et le tuer, le premier à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à donner sa vie pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas que lui, il y en aura plein d'autres des compagnons, on va en parler plus tard, c'est Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair, il a défendu, ce texte nous dit, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il fût tué. Et celui qui l'a tué, qui l'a atteint, c'est l'idolâtre qui s'appelle Ibn Qami'a al-Layfi. Et Ibn Qami'a al-Layfi, il va retourner chez les Quraysh et il va dire « Laqad qataltu Muhammadan. » J'ai tué Muhammad. Pourquoi il dit ça alors qu'il a tué Mus'ab ibn Umair, il n'a pas tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que certaines versions, pas celle-ci, mais d'autres précisent que le compagnon Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu avait un air de ressemblance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ressemblait un petit peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, quand tu mets le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mus'ab ibn Umair côte à côte, tu sais reconnaître et faire la différence. Sauf que là, ils avaient des casques, on ne reconnaît pas très bien les personnes. Et donc, du coup, il les a confondus. Il a pris Mus'ab ibn Umair pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il l'a tué, et il était persuadé d'avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il est tellement content qu'il retourne chez les idolâtres et il crie « Laqad qataltu Muhammadan, j'ai tué Muhammad. » Et c'est ce qui va être la cause du fait que cette rumeur va se propager dans le champ de bataille. Non. On a aussi, toujours chez Tabari, une version qui nous dit « وَفَشَى فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ » Il s'est répandu parmi les gens, tous les idolâtres et les musulmans. Qu'est-ce qui s'est répandu parmi eux comme information ? Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad qutil. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Et ça, c'est une version que les savants ont jugée mursala. Ce qu'on appelle le hadith mursal, c'est qu'il y a une interruption aux tabi'i. Les tabi'i, c'est la génération juste après les compagnons. C'est-à-dire que on a une chaîne de transmission qui s'arrête aux tabi'i. Le tabi'i, il n'a pas vécu l'événement de Uhud, puisque c'est un tabi'i, ce n'est pas un compagnon. Et donc, il nous raconte ça. Comment on peut dire si c'est sahih ou pas ? Il faut qu'il nous dise de qui il l'a entendu. Mais ce tabi'i, il l'a raconté sans dire de qui il l'a entendu. Et donc, si on ne sait pas de qui il l'a entendu, on ne peut pas dire qu'il est authentique. Vous savez, les savants du hadith, ils disent tous les compagnons sont fiables. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont fiables. C'est-à-dire, quand ils font leurs enquêtes sur les narrateurs, quand ils arrivent aux compagnons, ils n'ont pas besoin de faire d'enquête. Abu Huraira rapporte que, Abu Huraira, c'est bon, il est fiable. Abdullah ibn Umar rapporte que, il est fiable. Aisha rapporte que, elle est fiable. Il y en a, c'est des compagnons. On n'a pas recherché à enquêter sur la fiabilité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la fiabilité, on la recherche auprès de qui ? Auprès de tous les autres. Des tabi'i et des autres. Donc on fait des enquêtes sur ces personnes-là pour savoir s'ils n'étaient pas touchés d'oubli, s'ils n'étaient pas des gens qui avaient la tendance à confondre les choses, s'ils n'avaient pas des problèmes de mémoire, s'ils n'étaient pas connus pour le mensonge, s'ils étaient intègres dans leur comportement, etc., etc. Donc ils regardaient tout ça. Et donc le problème du hadith mursal, c'est que même si la chaîne de transmission elle est authentique jusqu'au tabi'i, toi il te manque quelque chose, il l'a entendu de quel compagnon ? Certains pourraient dire oui, mais c'est un tabi'i. Les tabi'i, ils ont vécu autant des compagnons, donc on sait qu'il l'a entendu d'un compagnon. Certains pourraient imaginer ça. Ils vont dire, on sait qu'il l'a entendu d'un compagnon. Et la règle de la science du hadith, elle nous dit que le compagnon, quel qu'il soit, on ne recherche pas s'il est authentique ou pas, il est fiable. Donc pourquoi on ne considérerait pas que ce hadith, il est fiable ? Eh bien, c'est simple. Ce tabi'i, on a deux théories. Comme il ne nous a pas dit de qui il l'a entendu, soit il l'a entendu d'un compagnon, et si on en avait la preuve formelle, on dirait le hadith est sahih, parce que le compagnon est fiable. Mais il peut l'avoir entendu de quelqu'un d'autre, d'un tabiri comme lui. Et c'est cet autre tabiri qui l'a peut-être entendu d'un compagnon ou pas, ou qu'il l'a inventé. Peut-être qu'il l'a entendu d'un autre homme qui l'a inventé, qui n'est pas fiable, etc., etc. Donc, quand on a cette deuxième option, on dit il est mursal, il est da'if. On ne peut pas dire qu'il est authentique. Excusez-moi, je fais des parenthèses dans la science du hadith, mais c'est pour comprendre, c'est important. À la kulli hal, cette deuxième version qu'on a citée, qui nous dit wa fasha fi an-nasi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad qutil. Et donc l'information a été répandue parmi les gens, les idolâtres et les musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il a été tué. C'est une version mursala qui s'arrête au tabi'i, mais que la plupart des historiens reprennent. Ensuite, on a aussi Al-Mubarak Furi dans son ouvrage Rahiq al-Makhtoum et aussi Ibn al-Qayyim dans son ouvrage Zad al-Ma'ad. Ils nous citent tous les deux la même version, une version qui dit wa sami'u sa'ihan yasih qutila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entendu quelqu'un qui a crié le prophète a été tué. Quelqu'un a crié, le prophète a été tué. Donc ça vient appuyer, confirmer les versions qu'on vient de citer, en particulier avec Ibn Qami'a, qui pense carrément que c'est lui qui l'a tué, et il vient dire je l'ai tué. Ensuite, on a également la version de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, à un moment, il nous dit dans un. Il nous raconte un récit. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Parce que la suite, on va en parler plus tard. C'est un événement dont on va parler plus tard. Mais dans cet événement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit. وأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله كعب بن مالك. Il nous dit le premier à avoir reconnu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc le premier parmi les compagnons à avoir reconnu le prophète صلى الله عليه وسلم après la défaite. Qu'ils ont perdu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le voit plus. Et on a entendu qu'il est mort. Et là, la version nous dit quoi ? Elle nous dit le premier qui a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la défaite et après le fait qu'on avait perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vue. Et après, et la version elle dit, et après le fait que les gens ont dit qu'il était mort et qu'il a été tué, le premier à l'avoir reconnu et avoir dit « Ah huwa Rasulullah, il est là, c'est lui, c'est le messager d'Allah ». Il est vivant. C'est qui ? C'est Ka'b ibn Malik. Et même à ce moment-là, comme on le verra plus tard, le prophète Hassan va lui dire de se taire. Et Nassil le crie trop fort, les idolâtres vont arriver. Mais ça, c'est vers la fin de la bataille. Alors, attention, quand la version elle nous dit que c'est le premier qui va reconnaître le prophète Hassan, le premier parmi la plupart des gens de l'armée, des compagnons de l'armée, qui vont perdre de vue le prophète Hassan. Mais par contre, il y a un noyau qui va rester autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est avec eux. Donc ils savent qu'il est vivant. Donc quand cette version elle dit le premier, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout seul. Parce que nous aussi, on va voir, justement à partir de peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand on va parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, etc. Et de qui va rester autour de lui. Et comment ils vont le défendre, etc. On va expliquer qu'il y a un certain nombre de compagnons, même s'il y a divergence entre les savants, qui sont ses compagnons et combien sont-ils, mais on va en reparler, on aura le temps d'en reparler, on va dire qu'on va comprendre qu'il y a un certain nombre de compagnons qui vont rester avec lui du début jusqu'à la fin. Que certains vont rester dès le début, mais qui vont perdre leur vie. Non. Et donc, cette version de Ibn Ishaq, elle nous dit, pourquoi nous on la cite ? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette version ? C'est qu'elle nous dit, elle nous dit quoi ? Elle nous dit le premier à reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la défaite et après que les gens ont cru et ont dit qu'il était mort, qu'il a été tué. Donc ça vient aussi confirmer et appuyer le fait que cette rumeur a bien existé. Puisque là, Ibn Ishaq, lui, il va jusqu'à nous donner un détail, c'est qui le premier compagnon à dire à tout le monde, non c'est faux, c'est une fausse rumeur, c'est pas vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est vivant, regardez il est là. Donc cette rumeur elle a bien existé selon cette version. Non. Ensuite on a une autre version qui est rapportée à propos d'un compagnon et de comment va réagir un compagnon. Anas ibn al-Nadr radiyallahu anhu. Anas ibn al-Nadr, c'est l'oncle d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn al-Nadr, c'est un compagnon qui mérite qu'on retienne son nom. Et pourtant, nous, on connaît des compagnons, on connaît des noms de compagnons, mais c'est un compagnon que peu de gens connaissent. Et Anas ibn al-Nadr, c'est quelqu'un, un compagnon exceptionnel. Mais pourquoi c'est un nom de compagnon qu'on ne connaît pas tant que ça ? Parce qu'il n'a pas vécu longtemps, puisqu'il va mourir à Uhud, justement. Et on va parler en détail de lui plus tard, mais ici je cite juste une partie de la version qui nous parle d'Anas ibn al-Nadr. Anas ibn al-Nadr, radiyallahu anhu, il arrive au moment de la confusion dans l'armée et il voit qu'il y a une partie de l'armée qui, à cause de la confusion, tout a basculé, la victoire s'est transformée en échec. Une partie des compagnons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont posé leurs armes. Et certaines versions elles disent وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ, et ils lèvent leurs bras. Ils se rendent.
Il considère que tout est perdu. Le professeur Salam est mort. On a tout perdu. Donc il se rend. Et c'est une réaction humaine. C'est normal que certains ont réagi comme ça. On peut considérer qu'ils auraient pu... Mais c'est normal. La bataille, elle commence à basculer. Et il y a plein de morts du côté des musulmans. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. À quoi bon? On a perdu. Donc autant se rendre maintenant. Et Anas ibn Nadr, il voit ce groupe de compagnons qui veulent se rendre. Ils lèvent les mains. Ils ont posé les armes et ils lèvent les mains pour faire comprendre aux idolâtres, ne nous tuez pas, nous on arrête. On a perdu, on se rend. Anas ibn Nadr, il leur demande des explications. Qu'est-ce que vous faites? Et ils vont dire, on a perdu et en plus le professeur Salmi il est mort. Et Anas ibn Nadr, il va leur dire une parole. In kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa madha tantadhirun? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'est-ce que vous attendez? Et la suite de l'exceptionnel que va faire Anas ibn Nadr, je vous le réserve pour plus tard. Ça, on le verra plus tard. Sinon, on va tout mélanger. Mais nous, on a pris cette version et cette partie de cette version pour prouver, pour venir appuyer une fois de plus qu'il y a bien cette rumeur qui court à un tel point que certains compagnons veulent se rendre et que Anas ibn Nadr leur dit « Et alors, qu'est-ce que vous attendez ?» Justement, si le prophète Samy est mort, c'est maintenant qu'il faut encore plus se battre et se défendre. Sinon, ça voudrait dire qu'il est mort pour rien. C'est ça qu'Anas ibn Nadr veut leur dire. Non. Ensuite, on a une autre version qui nous dit Cette version, elle nous dit qu'un compagnon parmi les compagnons de la Mecque, un muhajir, pendant la bataille, il est passé à côté d'un compagnon de Médine qui était à terre dans son sang. Il était gravement blessé, il s'était battu, donc voilà, c'est la guerre, il est gravement blessé, il est dans son sang. Et ce compagnon de Mecca, ce muhajir, il lui dit Asha'arta anna Muhammadan qad qutil. Donc, parce que là, il rencontre qui? En fait, ce muhajir, il a entendu parler de la rumeur. Mais il ne sait pas si c'est vrai ou faux. Et il passe à côté de ce Médinois, ce Ansari, qui est gravement blessé. Donc il se dit, lui, il a participé plus à la bataille que moi. Peut-être gars, il était aux côtés du professeur Salam. Donc lui, il doit savoir s'il est mort ou pas. Donc il lui dit, il s'adresse à lui qui est gravement blessé, et il veut savoir, donc il lui dit, « Asha'arta anna Muhammadan qad qutil ?» Est-ce que tu as vu, si on traduit littéralement, est-ce que tu as ressenti, c'est-à-dire est-ce que tu as vu, est-ce que tu témoignes que le prophète a été tué? Et lui, il lui dit, il est gravement blessé, il lui dit ni oui ni non. Il lui dit, « Inkana Muhammadun qad qutil, faqad balag, faqatilu ala dinikum. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, ça veut dire qu'il a atteint, il a réussi. S'il a été tué, eh bien ça veut dire qu'il a réussi. Parce qu'il est mort pour une bonne cause. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Battez-vous pour votre religion. Battez-vous pour vos convictions, pour votre croyance. Non. Donc cette version aussi, elle vient nous confirmer ça. Et ensuite, c'est la dernière version que j'utiliserai, celle de Thabit ibn Dahdah, radiyallahu anhu. Thabit ibn Dahdah, radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Et ce compagnon, il va passer, c'est un compagnon de Médine.
C'est un Ansari.
Et il va passer à côté d'un groupe de compagnons de Médine pendant la bataille de Uhud. Et il va leur dire, Ya ma'shar al-Ansar, in kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا على دينكم فإن الله ناصركم فإن الله مظفركم وناصركم. Donc c'est un compagnon de Médine, Thabit ibn Dahdah. Et il passe à côté d'un groupe de Médine. Et il leur dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, eh bien sachez qu'Allah, lui, il est vivant, il ne meurt jamais. Qu'est-ce que vous avez ? Donc s'il leur dit ça, ça veut dire qu'il a dû trouver un groupe de compagnons qui ont été démotivés, comme ceux qui voulaient se rendre. Donc il leur dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué, pour qui vous vous battez ? Pour lui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un homme qui nous transmet la parole. Mais on est là pour Allah. Et Allah est vivant, il ne meurt jamais. فَقَاتِلُوا عَلَى دِينِكُمْ. Alors battez-vous pour votre religion. فَإِنَّ اللَّهَ مُظَفِّرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ. Parce qu'Allah va vous faire gagner et va vous donner le triomphe. La motivation. Dans un moment aussi difficile, où on est en train de perdre la bataille, et que si on sait que si on continue à combattre, on a 99% de chances de perdre la vie. Et pourtant, il leur dit, Allah va nous donner la victoire. فَإِنَّ اللَّهَ مُظَفِّرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ. Non. Et donc, Thabit ibn Dahdah, radiyallahu anhu, au moment où il va dire ça, la version, elle nous dit, فَنَهَضَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. Un groupe de Ansar vont se lever pour le rejoindre. Nafar. Nafar, c'est combien ? En arabe littéraire. Il y en a les gens du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, les pays du Golfe, Palestine, Syrie, tout ça. Ils utilisent aujourd'hui le mot Nafar, mais pour dire Nafar, ça veut dire une personne pour eux maintenant. Aujourd'hui, à notre époque, dans leur dirigeant, on va dire. Donc, il ne faut pas confondre avec ça. Par exemple, tu vas réserver une table dans un restaurant chez eux ou quoi, ils vont te dire Kam Nafar. Kam Nafar, ça veut dire combien de personnes pour eux. Mais Nafar, ici en arabe littéraire, ça veut dire que c'est un nombre qu'on ne connaît pas, mais qui ne va pas au-dessus de 10 et qui ne va pas en dessous de 3. C'est-à-dire, c'est entre 3 et 10. C'est ça le nafar, en arabe littéraire à l'origine. L'ancien arabe, c'est ça le nafar. Aujourd'hui, le nafar, il peut être utilisé pour ça, et peut être utilisé pour une personne. Et donc, on nous dit dans cette version que un groupe de Médinois, entre 3 et 10, se lève pour le rejoindre. فَحَمَلَ بِهِمْ ثَابِتِ ابْنُ الدَّحْدَحْ على كتيبة فرسان خالد. Et Thabit ibn al-Dahdah, il les prend avec lui, et il les prend pour faire quoi ? Pour essayer d'aller arrêter ceux qui sont le plus dangereux et qui sont en train de causer la grande défaite des musulmans, c'est la cavalerie. Ils sont à pied, hein. Ils sont entre 3 et 10. La cavalerie, ils sont 200 et ils sont sur des chevaux. Et il leur dit, on doit aller défendre les musulmans, mais les défendre contre la cavalerie. Et donc il les prend, et la version elle nous dit فَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّى قَتَلَهُ خَالِدٌ بِالرُّمْحِ وَقَتَلَ أَصْحَابَهُ. Et il n'a cessé de se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que Khalid le tue avec sa lance, et que ses autres compagnons, ceux qui se sont levés pour aller avec lui, ils soient tués aussi. Thabit ibn Dahdah, radiyallahu anhu. Donc on voit dans un moment comme ça que non seulement Thabit ibn Dahdah il lâche rien, et en plus de ça il arrive à convaincre certaines personnes pour aller jusqu'au bout, pour montrer jusqu'au, c'est fini, il n'y a pas de... Et Thabit ibn Dahdah, déjà de son vivant, il était capable de faire, c'est le plus grand sacrifice qu'il a fait. Mais déjà même avant ça, il a fait certains sacrifices. Quand on s'intéresse à la vie de ce compagnon Thabit ibn al-Dahdah, radiyallahu anhu, ça c'est son nom, Thabit ibn al-Dahdah. Mais son surnom c'est aussi Abu al-Dahdah. Et certains l'appelaient Abu al-Dahdaha. Donc al-Muhim, Thabit ibn al-Dahdah, dans des versions authentiques, on nous dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, donc ça c'est avant la bataille de Uhud, à Médine. Il y a un homme qui vient voir le professeur Hassan et il dit, « Ya Rasulallah, inna li fulanin nakhlatan uqimu ha'iti biha, fa'amuruhu an yu'atiyani iyaha hatta uqima ha'iti biha. » Donc il y a un homme qui a un grand jardin, un champ. Et certaines versions nous précisent qu'il était, que c'était un orphelin à la base, à la Koulihal, et il veut fermer ce jardin avec un mur. Il construit un mur. Sauf qu'il a un voisin qui a des palmiers. Et un des palmiers de ce voisin est exactement sur la limite. Et donc, soit cet orphelin, il va céder une grande partie de son terrain pour pouvoir faire le mur derrière le palmier qui appartient à l'autre. Soit il arrive à négocier avec le propriétaire de ce champ de palmiers pour avoir son palmier. Parce que ce palmier, il gêne, mais il appartient à Fulan. Et il ne peut pas venir faire un mur comme ça, et là, après, quand il arrive au palmier, il rentre le mur comme ça, il revient comme ça, et il refait comme ça pour... Le terrain, c'est comme ça qu'il est fait. Donc, il va le voir et il lui demande, il lui propose de lui donner. Il lui dit, t'as plein de palmiers, t'as un grand champ de palmiers, et ton palmier, il gêne, j'arrive pas à faire mon mur. Et je vais pas manger tout mon terrain juste pour que tu puisses garder ton palmier. Alhamdoulilah, t'en as plein, c'est pas un palmier en moins. Donne-le-moi. J'ai pas les moyens de l'acheter. Donne-le-moi. Permets-moi de construire mon mur et arnier en prenant ton palmier dans mon champ, dans mon jardin. Et il refuse. Et donc ça le bloque, il ne peut pas faire son mur. Et donc il va voir le professeur sallam et il lui dit, inna li fulani nakhlatan. Il va se plaindre. Il dit, il y a un tel qui a un palmier. Uqimu ha'iti biha. Je suis en train de faire mon mur dedans. Et il me gêne. فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي إِيَّهَا. Alors demande-lui, ordonne-lui de me donner son palmier afin que je puisse faire mon mur. Le prophète Hassan va appeler cet homme. Certaines versions nous disent que c'est Abu Lubaba, radiyallahu anhu. Il va lui dire, أَعْطِهَا إِيَّهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. Donne-lui ton palmier en échange d'un palmier que tu auras au paradis. Un palmier au paradis, c'est pas comme le palmier sur terre. Le palmier sur terre, il peut mourir. Le palmier sur terre, quelquefois, il va te donner des bonnes récoltes, quelquefois, il va te donner des mauvaises. Al-Muhim, amma le palmier au paradis, d'abord, il peut pas mourir. Deuxièmement, il fonctionne pas en fonction de est-ce qu'il y a de l'eau, il y a la sécheresse, ou là il va donner tout le temps, et il va donner mieux que les dattes de sur terre. Même l'ajwa de Medina ou les deglas de Tunis ou de Jazair, ils ont rien à voir par rapport à nah. Ala kulli hal, et le compagnon, il lui répond non. C'est mon palmier. Et le professeur sallam, il dit, classe. C'est son palmier, il ne veut pas le donner. Et on ne peut pas lui en vouloir. Je lui ai proposé, et Allah va te récompenser d'un palmier au paradis. Non, je ne veux pas de ce palmier au paradis, moi je veux mon palmier. Ça fait. Ça peut étonner certains, mais c'est comme ça. Et le professeur sallam, à un moment, il dit dans ses versions, c'est grave, alors que je t'ai proposé. Non, l'Yanna, c'est le sien. C'est son haqq. Sinon, ça va s'appeler de l'expropriation. C'est son droit. Et il a le droit de dire non, et personne ne peut venir et dire « Ah, ça ne se fait pas ce que tu as fait. » Non, c'est le sien. Et Thabit ibn al-Dahdah, parce que moi c'était de lui que je parlais, quel rapport avec cette histoire? Eh bien, Thabit ibn al-Dahdah, il voit cette scène. Et donc le professeur Hassim, il dit à l'orphelin, « Je ne peux rien faire pour toi. » C'est son palmier. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas te le donner gratuitement. Il ne veut pas te le donner contre un palmier du paradis. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Thabit ibn al-Dahdah, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le compagnon qui est propriétaire du palmier. Il va lui dire, بعني نخلتك بحائطي. Vends-moi ton palmier contre mon jardin, contre mon champ. Thabit ibn al-Dahdah, il a un champ de quoi il vit, ses récoltes, etc. Il ne vient pas lui dire un palmier contre... Il a compris que c'est mort, parce que s'il ne veut pas le palmier au paradis, ce n'est pas un palmier qui va... Il va le voir, lui a dit, moi j'ai un champ. Garde ton champ, mais juste donne-moi ton palmier, vends-moi ton palmier contre mon champ complètement. Et là, l'homme lui dit, d'accord. Si c'est contre le champ, je te donne mon palmier. Prends-le, il est à toi. Et le compagnon Thabit ibn al-Dahdah, il retourne dans son champ, il y a sa femme, etc. Il dit à sa femme, « Ya Umma al-Dahdah, okhruji, faqad bi'tu al-ha'it. » Avant ça, il va d'abord voir le professeur sallam. Il va voir le professeur sallam, il dit, « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, j'ai acheté le palmier de... du compagnon. Le professeur Hassim lui a dit, acheté. Combien tu l'as acheté? Il a dit, contre mon champ. Ton champ entier. Non. Le professeur Hassim, il va dire, et donc, pourquoi tu as acheté le palmier? Il a dit, bah, pour le donner à la personne, à l'orphelin. Je lui offre, comme ça, il peut construire son mur comme il veut. Moi, je l'ai acheté, donc c'est à moi. Eh bien, maintenant, moi, je lui donne. C'est-à-dire, il a perdu maintenant son champ. Thabit ibn al-Dahdah. Et le palmier, il lui restait quand même un palmier. Bon, c'est déjà ça, on va dire. Même le palmier, il le donne. C'est fini. Et le professeur Hassim, à ce moment-là, il va dire « Kam min idhqin radahin li abi al-Dahdah fil jannah. »« Kam min idhqin radahin li abi al-Dahdah fil jannah. » Combien de branches de palmiers lourdes Abu al-Dahdah il aura au paradis. C'est-à-dire, il n'est pas en train de poser la question, il est en train de s'étonner. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de branches de palmiers. C'est-à-dire, il va y avoir plein de palmiers, mais en plus, ces palmiers auront plein de branches. Et elles seront lourdes. Lourdes de quoi? De récolte. Yanni, il a gagné une grande récompense au paradis. Pourquoi? Pour ce qu'il vient de faire. Et ensuite, il doit aller terminer de... finaliser cette vente. Donc il va prévenir sa femme qui est là-bas au champ, en train de travailler au champ, et surtout, selon certaines explications de certains avants, c'est parce que même sa maison, elle serait dans le champ. Donc il va demander à ses enfants, on va vivre ailleurs. Ça va jusqu'à ce point-là. Donc il va voir sa femme et il lui dit, « Oumad dahdah, ukhruji min al-ha'iti faqad bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah. » Oumad dahdah, sors de là, sors du jardin parce que je l'ai vendu contre un palmier au paradis. Elle va dire quoi? Rabih al-bay'. On a gagné dans ce commerce. Toi, va voir ta femme et va lui dire. Va voir ta femme et va lui dire, j'ai vendu la maison, j'ai tout vendu contre quoi? Contre un palmier au paradis. Au paradis, un palmier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle va dire Rabih al-bay'. Et inversement, si c'est elle qui le fait, qui fait une bonne action, c'est son argent, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son champ, elle a eu un héritage et elle le donne fisabilillah matala. Elle va te dire, moi je l'ai donné fisabilillah pour avoir des récompenses au paradis. Ouais, même Ziyad, moi je me tue ici à travailler, à suer, et toi tu me vends des trucs pour le paradis. Non. Ala kulli hal. Et donc, subhanallah, elle lui répond, rabih al bay'. On gagne dans ce commerce, on gagne. On est gagnant dans ce commerce. on a fait un grand bénéfice. Allahu Akbar. C'est là qu'on comprend qui sont ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on comprend la position de Thabit ibn al-Dahdah à la bataille de Uhud, quand il voit que des compagnons de chez lui, de Médine, ils sont désespérés, ils sont démotivés parce qu'ils pensent que le prophète a été tué. Il leur dit quoi ? Venez, on y va. Et il va vers la cavalerie jusqu'à ce qu'il soit tué par Khalid avec la lance. Non. Et donc, tout ça nous démontre quoi ? Nous démontre qu'il y a bien eu cette rumeur. Et donc ça vient aussi nous laisser entendre comment les compagnons ont dû réagir. Mais on a dit que certains, il y avait la confusion. Mais il y a eu des réactions différentes chez les compagnons. Il y en a, ça va les motiver encore plus. Il y en a, ils vont fuir. Il y en a, ils vont essayer de sauver leur vie. Il y en a, ils vont essayer de se rendre. Bref, il y a plein de réactions différentes. Eh bien, c'est ces réactions-là qu'on va étudier, Inch'Allah, la fois prochaine. On va donner des exemples de compagnons à chaque fois. Comment ils ont réagi pour voir que les compagnons, sur cet événement de la rumeur du fait que le professeur Sam aurait été tué, ils vont réagir tous différemment. Et on va donner plusieurs exemples de compagnons différents pour comprendre ces réactions différentes. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك